Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, Olivier Aymon.
Si l'idée qu'un homme marchera sur Mars au cours des décennies à venir est aujourd'hui acceptée, validée, peut-on imaginer un équipage un jour vers Jupiter ou Neptune? Dans quelles conditions ces missions très lointaines seraient-elles réalisables? Et surtout, qu'irait-on y faire?
Aller plus loin pour toujours rester animé par ces questions scientifiques de d'où vient la vie sur Terre, comprendre si la vie a pu se développer sur d'autres corps célestes, si elle a pris d'autres formes, d'essayer aussi de comprendre l'évolution de la Terre.
Stéphanie Lizy-Détré est enseignante-chercheuse en conception des systèmes spatiaux à l'ISEE Supaéro à Toulouse. Ce voyage humain au-delà de Mars, c'est réalisable?
Alors, on n'est pas forcément que dans la science-fiction. En fait, on pourrait dire qu'on est dans la prospective plus exactement. Effectivement, la feuille de route que se donnaient les agences spatiales, c'est d'emmener des humains sur la surface de Mars. Donc aussi, au-delà, on ne l'a pas encore prévu, mais ainsi, en fait, dans toutes les archives de toutes les agences spatiales, on va trouver des projets, des concepts d'emmener des humains, alors sur Vénus qui est moins loin que Mars, mais ça reste quand même une zone inhospitalière, mais au-delà, effectivement, les lunes de Saturne, de Neptune, ou les ceintures d'astéroïdes qui sont des destinations qui ont de grands intérêts scientifiques, mais qui évoquent depuis quelques années des intérêts commerciaux également. Et donc ça génère des concepts, des projets et des envies qui peuvent effectivement s'inspirer de la science-fiction. Et aussi, il y a le fait que nos technologies ont beaucoup évolué, se sont améliorées, se sont miniaturisées et qui font que les films des années 70 pourraient un jour prendre forme et avoir des missions vers ces destinations lointaines.
Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de barrière technologique infranchissable, insurmontable?
Alors, les barrières technologiques, en fait, celles que je comprends et celles que je perçois, sont les mêmes que pour aller vers Mars. Des temps de vol quand même qui sont importants. Donc, des équipages qui sont confinés pendant une grande période, une exposition aux radiations. Donc, quand on aura résolu ce problème-là, aller sur Mars ou aller plus loin, finalement, c'est la même chose. On va avoir des problèmes de température à gérer, des problèmes de vide, mais quelque part, ça va être la même chose. Après, c'est vrai qu'on va découvrir, explorer des environnements, des univers, des planètes où on peut envisager la vie, peut-être sous d'autres formes. C'est vraiment la question qui anime l'humanité actuellement pour l'exploration spatiale et l'exploration de Mars en particulier. Donc oui, ça reste des freins technologiques qui ne semblent pas insurmontables, qui sont intéressants, sur lesquels il y a de la recherche, il y a de la R&D, il y a des ambitions et des rêves.
Mais on parle quand même de mission, vous disiez de la durée de la mission est un des enjeux. Mars, on se dit 500 jours, quelque chose comme
oui.
Ça. Si on imagine, je ne sais pas, Saturne, Neptune, encore plus loin.
Alors Saturne, c'est à peu près 7 ans pour y aller. Donc si on veut prendre un peu le temps de s'y poser, d'explorer, puis 7 ans pour revenir, si on souhaite revenir. Donc ça fait quand même une grande partie d'une vie hein, pour un équipage. Au-delà de Neptune, c'est plutôt 12 ans, 13 ans. Donc ça commence à faire une grande destination et donc c'est pour ça que vous avez des projets qui s'intéressent à l'hibernation. On pourrait croire que c'est de la science-fiction, mais il y a des recherches en cours. Il y a des chercheurs qui essayent de s'inspirer de qu'est-ce qui se passe pour les ours. Ils ont cette capacité d'hiberner, ils ont ces réserves pour réduire leur consommation, baisser leur métabolisme. Est-ce que l'humain serait capable de le faire? Quels sont l'impact sur son squelette, sur sa musculation, mais aussi c'est l'impact psychologique.
C'est ce que j'allais dire, il y a un versant psychologique important.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand on se réveille d'une telle période? Mais il y a aussi des enjeux qui sont au-delà des enjeux éthiques, des enjeux juridiques. Donc vous avez des gens, des spécialistes, des juristes qui se posent la question de qu'est-ce qui se passe si on hiberne pendant très longtemps et puis que quand on revient, c'est passé, nos biens sont passés à la génération suivante, à nos enfants, et puis qu'on vient de les réclamer et puis quelles vont être les relations, l'insertion dans une société dans laquelle on n'a pas vécu avec un certain décalage. Donc il y a des grosses questions effectivement qui se posent.
Si je vous écoute, même si on n'a pas encore les moyens techniques d'y aller, on réfléchit déjà à toutes les conséquences ou toutes les questions qui peuvent se poser.
Tout à fait. Ce sont des questions qui sont vraiment interdisciplinaires, multidisciplinaires. Et c'est ce qui fait la richesse de notre époque, de nos générations. C'est-à-dire qu'on va essayer de lever les freins technologiques. sachant qu'en plus que quand on fait avancer les technos pour l'exploration spatiale, il va y avoir des applications pour l'humanité sur Terre. Il y a aussi cette motivation-là qui fait que, au-delà de la curiosité, de l'exploration, de la découverte, il y a aussi l'enjeu d'apporter un mieux-être à la société. Donc, en plus de cet aspect-là, notre période a bien compris qu'il y a d'autres enjeux, que l'humain est un tout, un système très complexe à prendre sous tous ses aspects. C'est ça qui est intéressant également.
Et est-ce que l'un des ressorts, qui est parfois contesté ou décrié, c'est l'idée de se dire il faut qu'on trouve une planète B? Enfin, l'un des enjeux qu'on met en avant pour dire il faut aller sur Mars. Est-ce que là aussi, c'est une question qui fait qu'on s'imagine aller plus loin?
Alors effectivement, pendant de nombreuses années, c'était un des enjeux de se dire on a cette image que dans 4 à 5 milliards d'années, la Terre va disparaître parce que l'activité du Soleil va faire que ça sera plus possible pour l'humanité et pour tous les êtres vivants de continuer sur cette planète-là. Et Mars étant un peu plus éloigné du Soleil, on peut imaginer que s'installer sur Mars permettra de sauver la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Ce qui me dérange, moi, personnellement, avec ce côté planète B, c'est-à-dire que c'est, ah ben oui, on a un backup, donc on peut faire n'importe quoi sur Terre. Et ça serait vraiment dommage. Donc non, c'est plutôt au contraire aller plus loin pour toujours rester animé par ces questions scientifiques de d'où vient la vie sur Terre, comprendre si la vie a pu se développer sur d'autres corps célestes, si elle a pris d'autres formes, d'essayer aussi de comprendre l'évolution de la Terre. Donc avec Mars qui correspond un peu à notre passé, mais avec Vénus qui correspond plutôt à notre futur, à savoir que Vénus c'est un enfer. Au niveau température, c'est une augmentation de l'effet de serre. Et donc, de s'imaginer ce que pourrait devenir la Terre en se réchauffant. Et donc, aller explorer ces planètes-là, c'est aussi mieux comprendre, anticiper ce que pourrait devenir la Terre.
Alors, puisque vous évoquez Vénus, même si on est avant Mars, du coup, justement, comme elles sont plus proches, est-ce que là, il y a déjà eu ou est-ce qu'il y a des projets? Se poser sur Vénus, et vous l'avez dit, c'est très compliqué, mais Mercure, est-ce qu'il y a même jusqu'à des programmes qui seraient au moins dans les cartons?
Des programmes de vol habité? Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a des programmes d'exploration de Vénus. Alors, il y a des concepts, notamment d'utiliser des ballons dans l'atmosphère de Vénus. Parce que si on se place en Vénus, il y fait très très chaud. En plus, il y a de l'acide sulfurique, c'est des vents à 100 mètres secondes. Voilà, c'est pas vraiment l'endroit où on a envie de passer ses vacances. Mais il semblerait que si on se place à une altitude de 55 km par rapport à la surface de Vénus, on va se retrouver à une température d'à peu près 30 degrés. Donc c'est tout à fait envisageable d'avoir des véhicules à cette altitude-là pour faire de la collecte d'informations, de la mesure in situ. Alors, ça serait des missions d'à peu près une trentaine de jours. Et forcément, il faut avoir d'autres véhicules qui restent en orbite un peu plus éloignée pour pouvoir les rejoindre et après revenir sur Terre. On parlait de 500 jours à peu près pour Mars. Vénus, c'est 440. Donc, c'est un peu plus accessible. Et après, il y a d'autres concepts de missions qui, moi, je trouve vraiment intéressants pour du vol habité. C'est des missions à destination de Mars, mais avec un survol de Vénus. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle l'assistance gravitationnelle qui fait que quand on survole un autre astre, on va gagner en vitesse, de manière un peu gratuite. C'est le cas de Juice qui va faire plusieurs, on appelle ça en anglais des fly-by, plusieurs survols d'autres corps célestes pour pouvoir monter en vitesse sans faire de manœuvre, donc sans dépense de son carburant. Et on peut faire la même chose, c'est-à-dire faire la Terre, Vénus, et pour aller à Mars. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se dit que si des équipages survolent Vénus, ils vont pouvoir photographier, explorer, identifier peut-être des choses qu'on ne peut pas faire avec des missions robotiques ou des missions autonomes.
Il y a une vraie différence entre un robot et la main humaine?
Alors ça, c'est vraiment la question qui me passionne d'un point de vue scientifique. Moi, je suis plutôt partisane de soutenir la collaboration, mais une vraie collaboration entre les rovers, les robots et les humains. On a besoin des deux, en fait. L'avantage du rover, c'est qu'il va pouvoir explorer des zones inconnues où on ne peut pas trop anticiper les risques, les dangers. Si on perd l'objet, c'est triste, c'est du travail qui a été investi, c'est de l'argent, mais il n'y a pas de vie humaine en danger. Et donc les robots peuvent être considérés comme précurseurs. Et puis les humains peuvent venir après, quand le site est sécurisé, pour venir vraiment amener l'œil de l'humanité, la main de l'humanité, parce que là, on ne peut pas être remplacé. Le rover, il ne va pas avoir de sentiments, il ne va pas avoir d'émotions, il ne va pas pouvoir relater ce qu'il a vécu, alors que l'astronaute qu'on envoie, il est notre ambassadeur et il va le vivre, on va vivre à travers lui. Donc ça, c'est une grosse différence, mais on voit bien qu'ils sont complémentaires. Et ensuite, le rover, lui, il peut aussi préparer l'arrivée des équipages, déployer des bases. Il peut aussi maintenir la base entre deux passages d'équipage. Il peut aussi être son compagnon, c'est-à-dire être une sorte de scout, d'échange pour transporter le matériel, pour servir de petit laboratoire local pour pouvoir faire des expériences, pour pouvoir afficher des procédures. Si l'astronaute se blesse, il peut aussi communiquer avec ceux qui sont restés dans la base pour les appeler. Donc voilà, il y a une véritable collaboration qui est intéressante et qui permet une plus grande autonomie et aller plus loin. Parce que si on regarde un rover tel que Perseverance, alors j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres, mais je crois qu'il fait à peu près 200 mètres par jour, et il fait 200 mètres qui ont été programmés par le centre de contrôle. L'humain, lui, il peut... Alors si on regarde ce qui a été fait pour les missions Apollo, c'est entre 1 et 3 kilomètres par jour qu'il est capable de faire. Si on va en plus avec une astromobile, on peut faire presque 9 kilomètres. Donc il a un champ d'exploration qui est beaucoup plus large par rapport au rover. Et en plus, il a cette capacité d'adaptation, de flexibilité, de prendre une décision. Surtout si on va sur des destinations lointaines, on a des délais de communication. Mars, c'est entre quelques minutes et 20 minutes. Donc ça déjà... On programme à l'avance nos rovers et on lui donne les tâches à faire jusqu'au lendemain. L'humain, lui, il va être capable de décider sans le secours du centre de contrôle pour pouvoir explorer. Donc c'est un énorme avantage, effectivement.
Alors on disait, avant Mars, par exemple, Vénus, impossible de s'y poser pour des questions de température, de pression, mais on pourrait rester dans son atmosphère. Est-ce qu'au-delà de Mars, on imagine aller se balader, mais alors se poser sur une géante gazeuse, c'est évidemment compliqué. Donc on viserait quoi? Les lunes qui sont autour?
Exactement, il y a un certain nombre de lunes qui sont intéressantes. Vous avez Europa, vous avez Encelade, vous avez Triton, Titan. Moi j'aime bien Titan. On a travaillé sur ce sujet-là avec des étudiants, de voir s'il y avait de l'intérêt d'aller faire des missions d'exploration habitée. Alors, il faut beaucoup de carburant pour pouvoir aller si loin. Toutes les lunes qu'on vient de citer, ce sont des lunes où potentiellement on pourrait avoir des formes de vie, puisqu'on va retrouver les éléments nécessaires au développement de la vie. Et je pense que c'est ce qui va guider les programmes scientifiques. Si on regarde les programmes commerciaux, l'envie d'aller exploiter les ressources des corps célestes, là on va se tourner plus vers les astéroïdes. Alors les astéroïdes, ce sont des toutes petites planètes, des tout petits objets. Effectivement, s'y poser, c'est compliqué. On a bien vu hein, avec Chury qui rebondit, mais c'est aussi plus facile d'en repartir. Donc, il y a des missions qui sont envisagées de survoler plusieurs astéroïdes. Et donc, oui, là, il y a de l'intérêt. On est au-delà de Mars, effectivement.
Mais on n'est pas si loin que ça.
Oui, il faut 2-3 ans pour pouvoir aller rejoindre la ceinture d'astéroïdes.
Mais c'est ce qui est intéressant, parce que vous dites, il y a évidemment l'envie scientifique, mais on voit bien, et on en a parlé dans les deux premières saisons, que la question... on va dire économique ou d'exploitation, je ne sais pas si elle émerge, mais on voit bien qu'elle monte aussi, en tout cas l'intérêt qu'il pourrait y avoir autour de ces questions.
Tout à fait, parce que dans les astéroïdes, on n'en connaît que très peu hein, de tout ce qui est possible. On a eu quelques missions qui nous ont permis d'avoir une meilleure connaissance de leur structure et de leur composition. On peut identifier la présence de métaux rares, la présence d'eau, Bon, c'est sûr qu'ils sont très utiles pour comprendre l'origine de notre système solaire, puisqu'ils sont composés de matériaux qui sont à l'origine. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais on y voit bien, surtout qu'il y a des États qui ont légiféré, qui ont donné l'autorisation à leurs ressortissants. Si vous avez la capacité d'aller jusque-là, vous avez le droit de miner, d'exploiter les ressources. Donc là, il se pose des vrais problèmes juridiques, éthiques. Mais sachant que voilà.
Premier arrivé, premier servi.
Un peu, oui. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un fort retour d'intérêt pour la Lune, parce que la Lune apparaît comme un merveilleux endroit pour s'entraîner, pour développer ces technologies, pour les tester. Et puis aussi un endroit où ça coûte moins cher, en fait, de partir de la Lune à destination de ces corps célestes, parce que la gravité de la Lune est plus faible, donc on a moins besoin de carburant. On imagine qu'on pourrait utiliser les ressources de la Lune pour faire des carburants aussi. Il faut le voir plutôt comme une carte de métro avec différentes stations et d'imaginer des différents nœuds logistiques pour passer d'un environnement à l'autre.
Est-ce qu'en attendant d'y aller physiquement, est-ce qu'on peut y aller ou imaginer y aller virtuellement? On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que cette capacité de calcul qu'on a aujourd'hui, avec les connaissances qu'on pourrait avoir via des observations robotiques ou juste techniques, on pourrait recréer ces mondes très lointains sans avoir la nécessité de dormir comme un ours pendant quelques années?
Alors effectivement, il y a des travaux de recherche qui sont très poussés, très avancés sur cette question-là. Alors l'essentiel ont été faits, on revient sur la Lune, mais comme toujours, la Lune, c'est une étape pour aller plus loin. À partir de toutes les photos qui ont été prises par les équipages d'Apollo, on a été capable de reconstituer le paysage et en trois dimensions, pour qu'effectivement, avec des lunettes de réalité virtuelle, on peut s'immerger. Alors c'est passionnant pour les chercheurs qui essayent de comprendre comment la Lune s'est formée, qui essayent de comprendre cet environnement, mais également pour tous les concepteurs de missions, pour les ingénieurs, pour essayer de se dire, bah, tiens, si je mets une base là, et de travailler avec des architectes de manière plus réaliste, en fait, plus immersive. Donc, on sait le faire avec la Lune. Là, on a besoin effectivement de missions précurseurs, de satellites ou de, pas forcément de rovers, mais plutôt de satellites qui voleraient à une altitude suffisamment basse pour cartographier l'objet d'intérêt et puis renvoyer vers la Terre ces images-là pour après reconstruire le paysage. Après, je pense que l'humain reste frustré, même si notre cerveau est capable de se déconnecter, de se dire, s'imaginer dans cet environnement-là. On va avoir d'autres sens qui ne sont pas sollicités, comme l'odorat, l'ouïe, le goût, même si dans l'espace, on se naît dans son scaphandre. Mais je pense que quand même, il y a ce côté, je le touche du doigt, j'y suis pour de vrai, qui est peut-être une limite. Il y a la force de l'imagination, mais il y a quand même l'envie de poser son pied. On a des super films qui parlent de ces rêves-là, de ces ambitions-là.
Ou alors vous rêvez d'aller où?
Moi, la Lune, ça me va bien déjà. Ça me semble plus romantique que Mars. Mars, c'est une destination qui semble très aride et très solitaire, même si on me donnait le ticket, forcément j'irais.
Forcément, vous irez?
Ah oui. Sans aucune hésitation. Titan, j'aimerais bien, ouais.
Pourquoi ?
Il y a ce côté, c'est loin, hein, c'est 7 ans, mais ça reste encore envisageable dans la durée de vie de mon espérance de vie. Au-delà, Neptune, je ne sais pas si j'en aurai la capacité, mais oui, puis voilà, découvrir des nouveaux mondes. Se dire qu'on est à la limite, à la frontière de ce qui est connu. J'ai déjà eu ce sentiment-là, par exemple, quand on va dans l'hémisphère sud et puis qu'on se retrouve en Nouvelle-Calédonie et qu'on sait qu'au-delà, il n'y a que des océans jusqu'en Antarctique. Et bah, cette sensation-là de se dire qu'on est aux confins, c'est quelque chose qui m'attire et qui m'intéresse.
C'était Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse.